16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Aujourd'hui, à partir de 17h, je vous emmènerai dans un pays dont il suffit à peine de prononcer le nom et tout de suite vous êtes ailleurs, dans un monde de légendes, de landes, de brumes, de collines couvertes de bruyères, de nuages sombres, de châteaux solitaires. Nous partirons en Écosse. Voilà, je vous ai dit, juste le nom, trois notes de musique et on y est. Et puis juste avant, c'est-à-dire maintenant, dans une région un petit peu plus ensoleillée, très prisée des voyageurs du monde entier, une terre de bons vins, d'huîtres et de plein de bonnes choses, le pays de la dune du Pila, dans le bassin d'Arcachon, nous partirons pour la Gironde. Et pour cela, je suis avec toute une bande de grands voyageurs et de délicieux voyageurs. Ils sont de bonne compagnie, Nathalie Elal. Les petites histoires dans la grande histoire, c'est vous, bonjour.
Bonjour à tous.
Et puis la plus gourmande parmi nous, Emmanuelle Jarry, pour toutes les saveurs du pays et de tous les pays du monde. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, bonjour.
Toujours au rendez-vous.
Ouais, toujours, tous les jours, tout l'été. Vous êtes le plus brave. Le bassin d'Arcachon, la dune du Pila, Bordeaux, on voit grosso modo où c'est, mais comment ça s'arrange tout ça?
On va déjà localiser ce beau département et ce grand département que la Gironde, parce que c'est l'un des plus grands départements en surface de France. La diagonale la plus grande fait quasiment 170 km de long, donc il y a beaucoup de territoires divers dans ce département. La principale caractéristique, c'est qu'il est traversé par deux cours d'eau, la Dordogne et la Gironde, qui se rejoignent un petit peu au nord de Bordeaux, et ça forme un magnifique estuaire. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, qui vaut également le déplacement, c'est bien sûr la façade atlantique, avec des plages absolument magnifiques.
Ouais. On va en parler pendant toute cette heure, jusqu'à 17h. Nathalie, vous qui nous dénichez toujours les super infos et les célébrités, parce que vous avez les adresses de tout le monde, je ne sais pas comment vous faites.
Oh, c'est vous qui le dites. Je ne suis pas le bottin mondain tout de même.
Presque.
Pas encore.
Qui habite là-bas? Qui vient de là-bas? Comment ça se passe?
Bon, alors déjà, Philippe, le point commun entre Serge Lama, le dessinateur Sampé, le psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik, l'écrivain François Mauriac, qui n'est plus, bien sûr, les réalisateurs René Clément et Édouard Molinaro, l'actrice Danielle Darrieux, ils sont tous nés à Bordeaux.
Tout ça, quelle brochette!
Bah oui, une belle brochette. Et puis du côté du bassin d'Arcachon, du Pila, du Cap Ferret et d'autres stations balnéaires, c'est un véritable réservoir de grands artistes. Ça a commencé avec le peintre Toulouse-Lautrec qui avait une magnifique villa à Arcachon. Ouais. Et puis on recense depuis en vrac, hein, si j'ose dire, Philippe Starck, Pascal Obispo, Ariane Massenet, le couple Canet-Cotillard, par exemple.
C'est très tendance, hein,
ah,
le Cap Ferret.
C'est super tendance. Et puis il y a un homme dont le nom ne vous dira rien alors qu'on lui doit beaucoup, parce que sans lui, la bouteille de vin de Bordeaux, eh bien, n'existerait pas.
Ah bon ? C'est l'inventeur de la bouteille de vin ?
C'est un certain Pierre Mitchell, qui est fondateur en 1723 de la première verrerie bordelaise, une manufacture royale, c'est-à-dire la principale fabrique de bouteilles de vin en France. Il a mis au point un verre très très dur, donc plus performant pour l'export et pour le transport des bouteilles. Et c'est à lui aussi qu'on doit l'invention du Jéroboam. Vous savez, ces bouteilles de 5 litres pour des grands soifards comme nous, par exemple.
Ouais.
Et puis... Bah voyez, il y en a
cette émission commence bien.
Ça commence très très bien. Puis vous savez aussi la caractéristique bouteille bordelaise, c'est-à-dire la bouteille avec des épaules hautes, en comparaison de la Bourgogne avec des épaules tombantes, et ben c'est toujours la même forme de bouteille aujourd'hui. Donc on lui doit beaucoup à ce Pierre Mitchell. Je l'adore.
Donc on lui doit la bouteille de Bordeaux et sa forme.
Et sa forme.
Il a pas inventé
et
la
sa
bouteille
solidité.
En général.
Ah non, quand même pas.
D'accord, très bien. Emmanuelle Jarry, vous êtes spécialisée dans le voyage et la gastronomie. Vous êtes à l'origine de l'émission C'est meilleur quand c'est bon, sur les réseaux sociaux et Internet. Quand je vous dis ça, Cap Ferret, Arcachon, Bordeaux, Gironde, votre premier réflexe, c'est quoi?
Moi, j'ai des images de paysages où se mêlent la terre et l'eau. Je trouve que c'est des paysages très mélancoliques, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve ce mélange terre-mer dans l'assiette. Ouais. Et on va raconter tout ça tout à l'heure.
On en parle tout à l'heure. Et après 17h, après le flash, n'oubliez pas, je vous emmènerai en Écosse, parmi les plus beaux paysages et les plus sauvages paysages d'Europe, mais aussi les plus mystérieux avec des tas de légendes de partout, dont la plus célèbre est celle du Loch Ness, mais en fait, ce n'est pas la plus intéressante. On vous en racontera des encore plus belles. Mais dans un instant, nous partirons donc en Gironde, premier département le plus vaste de France métropolitaine, et nous serons en ligne avec un amoureux de cette région, un homme que vous connaissez tous, qui a grandi entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Nous serons avec Bernard Montiel sur Europe 1 dans un instant.
Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les après-midi sur Europe 1, 2 heures de voyage. Donc après 17h, je vous emmènerai au pays des Highlands, des manoirs et des kilts. Mais là, tout de suite, nous sommes en Gironde. La Gironde qui abrite notamment le plus ancien phare d'Europe. On l'oublie souvent celui-là, mais c'est une de nos fiertés, le fameux phare de Cordouan qui a plus de 400 ans et qui est encore en activité, il fonctionne encore. Cet après-midi, notre guide exceptionnel, il faut bien l'avouer, a grandi à Bordeaux sur le bassin d'Arcachon. Il passe le plus clair de son temps dans sa maison de la dune du Pilat. Alors, vous vous souvenez forcément de lui, vous vous souvenez tous d'une famille en or, de surprise surprise, de vidéo gag. On l'écoute aussi tous les week-ends chez nos amis de RFM, à l'étage au-dessus, dans l'émission Une heure avec. Nous sommes en ligne avec Bernard Montiel. Bonjour Bernard.
Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour.
Ben non, merci d'être avec nous pendant vos vacances, c'est super sympa. Et vous êtes né, je crois, à Casablanca, au Maroc. Comment est-ce que vous avez atterri en Gironde ?
Bah écoutez, effectivement, je suis né à Casablanca. Mon père s'occupait des chemins de fer et quand on est arrivé tout de suite en France, puisqu'il est français, on a débarqué à Bordeaux, qui est une ville extrêmement accueillante, et plutôt à Bègles, qui est tout près de Bordeaux, comme il s'occupait des chemins de fer. Donc voilà, donc j'ai passé toute mon enfance là-bas et nous passions d'ailleurs tous les week-ends à Arcachon, on prenait le train et on allait pique-niquer à Arcachon. Et c'était déjà, pour moi, un grand choc de connaître l'Atlantique de cette façon, même si à Casablanca, il y a aussi l'Atlantique. Ouais. Mais c'était une autre Atlantique, c'était une autre chose, une autre ambiance, d'autres gens. Et tout de suite, il y a eu le coup de foudre pour cette région. Mais enfin, dès qu'on y passe quelques jours, on tombe amoureux, forcément.
Donc le dimanche, en famille, c'était pique-nique au bassin d'Arcachon, c'est ça ?
Ah oui, oui, complètement. Oui, on prenait le train tous les jours parce que je dois avouer que mon père, comme tous les gens de SNCF, ne paye pas le train. Donc on allait avec nos humbles moyens, on allait là-bas et on allait pique-niquer. Voilà, et c'était un grand plaisir. On quittait cette gare d'Arcachon qui est très mignonne d'ailleurs, qui est tout à fait dans le style arcachonnais. Et on allait pique-niquer tous les dimanches, on se retrouvait là-bas.
Qu'est-ce qui vous marquait ? Quels sont les petits souvenirs d'enfance qui vous reviennent ?
Ouais, ce sont surtout ces promenades au bord de l'eau, ça m'a toujours fasciné, ça. Et puis les hippocampes aussi, on regardait les hippocampes. Moi, j'étais fasciné par. De toute façon, moi, c'est la nature, hein, les animaux.
Les hippocampes, il y a des hippocampes
Ah oui, alors figurez-vous qu'il y en avait énormément dans le port, puisqu'évidemment la balade là-bas c'est également vers le port, il y en avait énormément, on les voyait bien, avec ce style gracieux, c'était incroyable, ces hippocampes, c'était un des premiers grands chocs, les hippocampes, c'est vrai.
Ah oui ?
Et quand on est enfant, oui, oui. Et alors figurez-vous qu'ils avaient disparu, et j'ai appris la bonne nouvelle, parce que tout ce qui se passe dans la région m'intéresse évidemment passionnément, et là ils sont revenus, il y a toute une colonie d'hippocampes vers le Cap Ferret. Emmanuel ? Et là ça m'a fait plaisir.
Emmanuel ?
C'est très bon signe, parce que je crois que la présence des hippocampes montre que l'eau est très pure, donc peut-être que il y a eu un retour.
Oui, oui. Elle est pure, l'eau est très belle. Et puis j'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, Emmanuel, effectivement, ce mélange terre-eau, terre-mer, comme ça. Et c'est vrai qu'on le retrouve aussi dans la cuisine.
Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu la dune du Pilat ?
Ah oui, alors là, c'est le choc. Parce que quand vous voyez cette montagne de sable fin, comme ça, absolument magnifique, c'est un truc hallucinant. En plus, vous ne la percevez pas tout de suite, sauf si vous êtes sur l'eau. Mais quand vous arrivez comme ça par la terre, vous voyez cette dune qui fait plus de 100 mètres. Elle fait à peu près 107 mètres, même si ça varie énormément selon les vents et les marées. Mais c'est magnifique. Et là, je veux dire que quand... C'était mon rêve d'enfant, en fait, vous savez, d'avoir quelque chose là-bas. Et bon, à l'époque, c'était même pas envisageable. Et il se trouve que, grâce à la télévision, à tout le reste, j'ai pu acheter une maison en 1989. Vous imaginez, il y a longtemps quand même.
Hein. Ah, oui.
Et j'habite au pied de la dune, en fait, en réalité. Et chaque matin, c'est un bonheur de chez moi, quand je prends le café, de regarder cette dune du Pilat. C'est magnifique.
Ah oui, c'était votre rêve de gosse d'avoir une maison là ?
Oui. Oh, c'est même pas une maison. Je ne pouvais pas envisager de posséder une maison. Moi, j'imaginais peut-être un studio sur le port d'Arcachon, vous voyez.
Ouais.
Et puis, en fait, bon, la vie s'est arrangée et j'ai pu acheter une maison. Je vous dis, dès mes premiers cachets TF1, je me suis précipité pour acheter une maison, même si je n'avais pas un sou, je dois dire. Mais bon, Et là, voilà, je suis très heureux d'avoir cette maison depuis tant d'années, quoi. Ouais. Et puis, je ne me lasse pas, parce que chaque fois, ça change. Vous savez, l'Atlantique, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ça change, quoi. Ça change le temps. Il y a les brumes maritimes aussi. Il y a ces balades en bateau, ouais, sur le bassin d'Arcachon. Il y a ces ostréiculteurs que j'aime, dont j'ai été le parrain plusieurs années de suite.
Ouais. C'est un rude métier, ostréiculteur, d'ailleurs. On n'en parle pas assez. C'est dur.
Non, il faut en parler, parce que c'est un métier très difficile. Et chaque année, ils ont toujours un petit problème d'une algue, ouais, un peu malveillante, dirais-je. Et chaque année, ils redoutent de ne pas pouvoir vendre leurs huîtres. Et heureusement, ça s'arrange, parce qu'en fait, c'est rien. Mais bon, vous savez que maintenant, les mesures sanitaires sont très, très féroces. Ouais. Donc moi, je soutiens les ostréiculteurs, et j'ai, pendant des années, et toujours maintenant, évidemment, et j'ai été leur parrain plusieurs fois, comme je suis l'ambassadeur de la Dune du Pilat. Ça, c'est assez rigolo, mais bon, on m'a décrété ambassadeur de la Dune du Pilat, ce qui me fait plaisir, évidemment.
Très bien. Ben Bernard Montiel, vous restez avec nous. On va continuer à, oui, découvrir la Gironde dans un instant. On se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait ? Nous sommes dans la Gironde et dans le bassin d'Arcachon, très exactement, en ligne avec Bernard Montiel, qui nous fait le plaisir d'être là pendant ses vacances pour nous faire partager la joie qu'il a à habiter, mais le plus clair de son temps, au bassin d'Arcachon. Vous êtes exactement à la dune du Pilat, hein, c'est ça, vers le Pilat ?
Oui, oui. Oui, oui, c'est-à-dire c'est à l'extrême, c'est au Pilat-sur-Mer. Ça fait partie de la tête de bûche, évidemment, c'est un lieu-dit, c'est au pied de la dune, effectivement. Ouais.
Et alors, il ne faut, ouais, pas confondre avec le Cap Ferret, qui est en face.
Non, c'est de l'autre côté. Vous savez, le bassin d'Arcachon, c'est une boucle. Ouais. Donc, de l'autre côté, en face de chez moi, mais il y a le Cap Ferret, que j'aime beaucoup aussi, mais qui est extrêmement différent. Bon, nous avons un sublime coucher de soleil, je dois dire, et il y a toujours la petite guéguerre entre ceux du Cap Ferret et nous. Mais une guerre amicale, évidemment.
Est-ce que le Cap Ferret est un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus bling-bling, un peu plus...
Bobo chic, je dirais, vous voyez.
Voilà, bobo chic, c'est mieux
bobo
que
chic.
C'est
oui, vrai. Oui, oui. C'est vrai. Non, mais c'est agréable. Ce sont des maisons en bois ravissantes. Ce sont des petites rues, même pas goudronnées. C'est très sympa, c'est très sauvage. Mais c'est que ça reste quand même bobo chic. Puisqu'au Pilat, si vous voulez, ça a été créé un peu avant. Ce sont des familles, de grandes familles bordelaises qui ont construit de très, très, ouais, grosses maisons. Donc il n'y a pas un seul immeuble, il n'y a rien. Il n'y a que des maisons, quoi, un peu partout, et avec des terrains. Donc moi, je trouve ça plus, évidemment, plus aéré, quoi, si vous voulez. On est moins serré au Pilat. Mais en fait, là, je vous fais la guerre, hein, avec le Cap Ferret.
Oui, mais on aime bien ça. Dire. On aime bien les querelles de clochers.
Oui,
vous savez
et puis il y a la guerre aussi des cannelés. Il y a la guerre des cannelés. Emmanuel doit le savoir, la guerre des cannelés.
Ah c'est quoi la guerre des cannelés ?
Cannelés bordelais.
Ah ben, la guerre des cannelés, c'est-à-dire qu'on dit toujours que le cannelé de chez Guignard, de chez nous, du Pilat, est meilleur que le cannelé de Frédélian. Et c'est vraiment le combat. Alors là, on fait même des tests, des soirées de tests de quel est le meilleur cannelé à l'aveugle.
Et qui gagne ?
Évidemment, c'est toujours nous. Ah ben, c'est nous. Hein, c'est nous.
Vous pouvez
c'est
nous
le Pilat avec Guignard, il n'y a rien à...
Et vous pouvez nous en envoyer, on vous départagera, il n'y a pas de problème.
Mais j'en suis sûr. C'est comme la guerre avec les chocolatines, avec Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée,
oui,
il appelle ça pain au chocolat. C'est insupportable. Chez nous, c'est chocolatine, c'est rien d'autre.
Mais où est la frontière, non, d'ailleurs, exactement, la limite ? Où est-ce que ça bascule entre chocolatine,
écoutez,
et pain au chocolat ?
Ça bascule avec les gens très sympathiques du Sud. Et dès qu'on dépasse la Loire, c'est différent. On te fait une vraie guerre avec Guillaume Gomez, ouais, mais voilà. Non, on dit chocolatine chez nous et ça restera comme ça.
Sur le côté un petit peu plus tendance, un petit peu plus branché du Cap Ferret, Nathalie nous a fait une petite liste et vous allez nous dire ce que vous en pensez.
Ah, oui, Bernard, okay. Je parle sous votre contrôle, hein, vous allez me dire, hein, si vous validez ou pas. Alors déjà, on ne va
beaucoup,
pas au,
oui,
Cap Ferret ni au Cap, mais au,
non,
Ferret. On dit ça en ouvrant la bouche, hein.
Voilà, ouais, voilà. Alors, vous avez tout à fait saisi l'ambiance.
Au Ferret.
Exactement.
Je vais au Ferret. C'est une amie très bien informée qui m'a branché, hein, sur ça.
Mais elle a raison, votre amie, c'est au Ferret.
Voilà,
vous voyez, il faut monter.
Et
monter.
Puis,
en toute modestie.
On parle de bassin ou d'océan, jamais de mer, même quand on va se baigner. On va,
c'est vrai,
pas dans la mer. Hein, ça, c'est pas possible. Hein.
Non, la mer, ça n'existe pas. Non, vous avez,
bon,
tout à fait raison.
Oui, il y a le dress code aussi. On s'habillait plutôt,
oui,
au crado, hein, en tenue de bateau ou en marinière, parce que les grands bourgeois bordelais voulaient vivre comme des sauvages. Je parle du Ferret, alors que, pour le coup, le Pilat, c'était un peu plus chic autrefois. Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard ?
Mais c'est vrai, ça reste encore comme ça, si vous voulez. Nous, il y a toujours le petit pull sur le dos, d'abord parce que c'est pas les grosses chaleurs de la Méditerranée. Donc le soir, il y a toujours les petites fraîcheurs, vous savez, de l'Atlantique. Donc on a toujours un petit pull sur le dos. Les espadrilles, hein, surtout, c'est très important.
Ah ouais,
les espadrilles,
mais, hein,
et de l'autre côté, c'est plutôt les toads, vous voyez.
Non, au Ferret, on marchait pieds nus autrefois.
Ah, mais oui, mais bien sûr. Bah oui, oui, oui. Mais
bon,
là, ça devient plus sophistiqué maintenant.
Alors vous savez, je vous recommande quand même, vous devez le connaître, le livre de votre ami Pascal Bataille, Le guide de survie au Cap Ferret. hein, aux éditions du Vent Salé. C'est très, très drôle et ça raconte tout très bien d'ailleurs.
Il connaît bien, lui, il a un très bel hôtel là-bas. Il connaît bien.
Est-ce que c'est dans cette région, Bernard Montiel, que vous avez commencé à la télévision?
Oui, toujours. Mais vous savez, mais de toute façon, pour moi, ça reste un refuge. Vous savez, on a la chance d'avoir une vie où on rencontre beaucoup de gens. On est à Paris, on est un peu partout. Mais j'ai toujours besoin d'y retourner. Parce que d'abord, je vais vous dire, vous passez un week-end là-bas, vous êtes rentré tonique à Paris et vous affrontez mieux à la fois les épreuves, le travail, tout ce que vous voulez. Donc oui, j'ai besoin d'y aller. J'y vais aussi beaucoup l'hiver. Hein. L'hiver, c'est très agréable d'y être aussi. Ouais. Parce que l'hiver, c'est une autre façon de vivre aussi. Bon, là, l'été, il y a un peu de monde, mais c'est sympathique. Il y a quelques restaurants où on va. On se reçoit beaucoup entre amis. On se reçoit beaucoup dans les maisons. Hein. On ne va pas trop dans les restaurants. Ça ne se fait pas trop non plus. Et au Ferrin aussi.
Et vous avez commencé à FR3 Aquitaine, hein, c'est ça?
Oui, absolument. J'ai commencé à faire 3 Aquitaine en 85. Mais avant, j'étais huissier à Libourne.
Vous voyez, d'accord.
Oui. Oui, j'en ai saisi des gens. J'adore ça.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous renseigner, parce que c'est aussi une rumeur qui court, sur les, pour ceux qui ne connaissent pas la région, sur les moustiques. Il y aurait beaucoup de moustiques ou pas?
Au Ferré, juste. Au Ferré. Juste au Ferré. Pas au Pilat. Non, il n'y en a pas beaucoup en réalité. Moi, je vais vous dire, il y a une chose. Je vous dis, c'est vraiment notre façon de vivre par rapport à la Méditerranée ou d'autres endroits. Il n'y a pas besoin de clim, par exemple. Voyez. Donc, il n'y a pas vraiment de moustiques. Franchement, il n'y a pas de moustiques. En revanche, ce qu'il y a de nouveau ces dernières années, ce sont les grillons. Comme dans le Méditerranée. Oui, c'est plutôt agréable. Vous savez, avec le son, le chant des grillons, des cigales. C'est curieux, c'est nouveau. Hein. Mais je vous assure que c'est nouveau. Ça date vraiment de moins de 10 ans. Ouais. Vraiment.
Pour conclure, s'il y avait deux petits endroits que vous nous conseilleriez, un peu moins courus, pour se balader.
Moi, ce que j'aime, ce sont les restaurants de plage qui sont un peu plus loin sur la route de Biscarrosse. Il y a tout un tas de petits restaurants de plage qui sont vraiment sympathiques, pas chers, accueillants. Vous avez là aussi les pieds dans le sable. Et c'est vraiment très agréable, quoi, vraiment. Moi, j'aime ça. Mais évidemment, il y a la corniche pour le point de vue. La corniche, elle reste le must de la région. Il y a ce point de vue extraordinaire. Mais où on mange très bien, on est bien reçu. Mais moi, je conseille aussi les petits restaurants de plage où là, vraiment, c'est la notion de vacances, quoi. On n'a pas besoin de s'habiller. On est en caleçon ou en maillot de bain et c'est très sympa, quoi. Vraiment.
Merci. J'aime ça. Merci beaucoup, Bernard Montiel, de
merci
nous avoir
à vous, merci à vous.
Consacré quelques minutes de vos vacances et profitez bien.
Merci. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Merci beaucoup. Merci.
Au revoir. On vous retrouvera sur RFM à la rentrée dans votre émission Une heure avec, chaque samedi.
Une heure avec, premier invité, Francis Cabrel.
Absolument. Chaque samedi et dimanche, de 12h à 13h. Et puis, vous serez aussi à la télé dans l'émission TPMP, début septembre. Et sur Animaux TV, exactement.
Exactement. Vous savez tout. C'est parfait. Vous avez tout dit.
Merci, Bernard.
Merci à vous.
Dans un instant, les histoires savoureuses de Nathalie Hella, les histoires les plus croustillantes qui se nichent dans l'histoire de la Gironde. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, tout à l'heure, nous irons, c'est un pays que j'adore, je trépigne de vous en parler, c'est une terre fantastique, nous irons au cœur des Highlands, dans cette nature à la fois brumeuse, mystérieuse, changeante, imposante et qui est chargée de légendes. Je vous assure que quand vous êtes là-bas, vous êtes très 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 loin. Donc ça, ce sera après le flash de 17h, mais pour l'instant, en première heure, les plus beaux coins de France, nous sommes dans cette région délicieuse, la Gironde. Rien que le nom comme ça, Nathalie, ça sonne doux, Gironde.
Ah oui, il y a une jolie signification, justement. Ouais. Je vous raconte la légende, l'origine du mot Gironde. Alors, la légende dit qu'un jour, la Dordogne et la Garonne se sont retrouvées toutes les deux au bec d'Ambès. Alors, c'est quoi le bec d'Ambès? C'est le point de confluence entre, justement, Dordogne et Garonne, et ça marque le début de l'estuaire, hein, de la Gironde. Alors, laquelle allait passer la première? Aucune ne voulait laisser la priorité.
Eh ben oui. Après, c'est pas priorité à droite chez les rivières.
Non, les rivières, non, ça ne marche pas comme ça. Alors, elles sont disputées violemment, puis après, elles se mettent d'accord et elles ont dit « Giron 2 ». Giron à deux.
Ah, c'est bon ça.
C'est mignon. Enfin bon, il y a quand même une autre explication, hein, je vous le dis tout de suite, un peu plus sérieuse.
J'aime bien celle-là, j'aime bien
moi aussi. C'est une origine latine « girus rundae », l'eau qui tourne. Voilà l'explication.
Et pourquoi elle tourne?
Parce qu'elle fait une boucle.
Ah, ça fait une boucle?
Une sorte de boucle. Oui.
Quoi, le bassin, l'estuaire?
Oui, absolument, ça fait une sorte de boucle. D'accord. Alors du coup, la Gironde a donné son nom au département.
Ah, vous voulez dire la forme de l'estuaire?
Oui,
ça y est, c'est remonté au cerveau, excusez-moi.
Du coup, la Gironde a donné son nom au département en 1789. Mais sachez une chose, c'est que Gironde, l'adjectif, ça désigne aussi une femme aux formes épanouies, bien en chair, potelée. Ouais. Voilà, ça c'est mignon aussi.
Qui tourne, qui est rond.
Qui tourne, tout en courbe et en rondeur.
D'accord.
Voilà.
Bon, ça c'est chouette ça. Mais d'habitude, vous nous sortez toujours une petite histoire maléfique.
De derrière les fagots ?
Oui.
Oui, j'en ai une.
Très bien.
Oui. Alors la musique déjà est dans l'ambiance tout de suite. C'est vrai, il y a des endroits comme ça avec un karma spécial. Alors c'est le cas du palais Gallien qui est situé dans le centre de la ville de Bordeaux. Alors c'est classé au monument historique. Ça a été un lieu vraiment malfamé jusqu'à la Révolution, depuis les jeux du cirque aux prostituées dans les ruines d'abord. C'est un grand amphithéâtre romain. Le nom est trompeur, hein. C'est pas du tout un palais, c'est un amphithéâtre au IIe siècle avec des combats de fauves, des gladiateurs, enfin plein de choses. Et puis ensuite, une obscure légende de sorciers et de sorcières qui s'y rassembleraient la nuit pour participer à des sabbats. Le sabbat, c'est cette cérémonie présidée par le diable avec des orgies générales, des grands festins avec des sacrifices d'enfants et des scènes de cannibalisme.
Et c'est...
Oui,
c'est...
je
et ça
vous
continue.
Sens en appétit.
C'est toujours le cas ?
Non, alors après, durant le Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, sur les ruines isolées de l'amphithéâtre, du palais Gallien, il y avait quand même une très sale réputation. Il y avait des duels... C'était le rendez-vous des truands et des prostituées, beaucoup, beaucoup de prostituées. Hein. Et puis évidemment, quand il y a un lieu sulfureux, on ne trouve pas très loin un endroit un peu plus propre. Et c'est le cas dans la rue voisine, parce qu'il y avait un monastère. Donc, pour éviter les pensées impures des moines qui allaient en direction des prostituées, si vous voyez ce que je veux dire.
Que par la pensée.
Oui, que par la pensée, bien sûr, il suivait aussi un peu du regard, j'imagine. Eh bien, le monastère a acheté toutes les maisons de la rue et a rebaptisé une rue appelée la rue Putoaille, aux références en prostituées qui exerçaient leur métier dans les ruines, en rue Saint-Fort. Fort parce que, eh bien, on triomphe du mal et on triomphe du vice. Et d'où on est dans la vertu.
D'où l'origine des noms des rues. D'accord.
Bien sûr.
Très chouette. Et du côté d'Arcachon.
Alors, curieusement, sans une maladie qui s'appelle la tuberculose, il n'y aurait pas eu d'Arcachon. Parce que c'est cette maladie qui a permis la plus formidable opération immobilière du Second Empire.
Ah bon ?
Oui. Sous le Second Empire, c'est déjà une station balnéaire réputée. Les riches négociants bordelais y vont. Et puis, il y a une autre famille qui la fréquente beaucoup parce qu'elle est propriétaire d'un millier d'hectares de forêt de pins, ce qui est quand même considérable. Ce sont les frères Perrère qui ont fondé aussi la Compagnie des chemins de fer du Midi et justement qui ont lancé la ligne de train Bordeaux, la tête de bûche, qui va jusqu'à Arcachon. Mmh. Et à l'époque, eh bien, la tuberculose, qu'on appelle aussi la phtisie, elle fait des ravages. Ah oui. Donc, une seule solution, le bon air pour les malades qu'on expédiait dans les sanatoriums de la montagne et de la Côte d'Azur.
Parce qu'il n'y avait pas de sanatorium dans le coin, à
Arcachon ? Eh bien, non, parce qu'on pensait que le climat de l'Atlantique était trop venteux, donc mauvais pour les poumons des malades.
Ouais.
Mais les médecins d'Arcachon et des environs, ils ont constaté quand même que les marins et ceux qui récoltaient la résine des pins, parce qu'il y a beaucoup de forêts de pins hein, dans la région, ouais, n'étaient jamais malades. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un climat océanique, bien sûr, mais qui était atténué, adouci par les forêts de pins, donc parfait pour guérir pour les poumons des tuberculeux. Donc la construction va démarrer en grand. Hein. Émile Perrère crée ce qu'il appelle la ville d'hiver, c'est une sorte de gigantesque sanatorium ouvert pour des séjours en famille, pour des gens fortunés, hein, avec des domestiques dans des maisons particulières, achetées ou louées meublées. Les villas sortent de terre comme des champignons et les rues et les allées sont dessinées en forme de courbe.
Ah bon ?
Tout est dans la rondeur aujourd'hui.
En courbe ?
Oui.
Pourquoi en courbe ?
Pourquoi en courbe ? Parce que de façon à ce qu'il n'y ait jamais nulle part de courant d'air. C'est fatal pour la tuberculose, les courants d'air. Alors il y a eu une opération de promotion, mais d'envergure, avec Napoléon III, l'impératrice Eugénie et leur fils. C'est un vrai triomphe. Les curistes vont affluer de partout du monde entier. Et puis aussi, il est bien portant qu'ils s'installent là-bas et ça va fonctionner merveilleusement jusqu'aux années 30. Et puis ensuite, il y a un déclin à cause de la crise économique, hélas.
Donc c'était déjà tendance à l'époque.
C'était déjà super tendance.
Ah ouais. Et vous avez repéré un lieu de culte assez surprenant aussi là-bas.
Oui, alors ça, c'est plutôt au Cap Ferret. Au Ferret. C'est la seule chapelle en France qui existe depuis 1885 où on trouve à la fois le croissant de l'islam et la croix sur le clocher.
Sur l'église.
Absolument. Et sur le fronton de l'église, de la chapelle plus exactement, est inscrit « Gloria Deo », ce qui signifie « gloire à Dieu ». Et ça, ça plaît vraiment à tous les croyants, quelle que soit leur confession. C'est vraiment l'atmosphère œcuménique par excellence. Et cette chapelle faisait partie de la Villa Algérienne, un ensemble architectural surprenant du Cap Ferret sur la commune de L'Herbe, magnifique, construit par un certain Léon Lesca, qui était un entrepreneur un peu mégalo, qui a construit construit le port d'Alger. Il a fait édifier cette villa qui n'existe plus, qui a été rasée, hélas, en 1965. 100 ans après sa création, c'était une magnifique demeure mauresque avec un parc de 25 hectares, des essences exotiques. C'est vraiment trop triste, ça a été laissé à l'abandon, c'est disparu. Mais ceux qui ont connu s'en souviennent encore.
Merci beaucoup Nathalie. À suivre sur Europe 1 les bonnes choses. Le meilleur de la Gironde côté assiette avec Emmanuel Jarry qui a créé le programme C'est meilleur quand c'est bon sur Internet. A tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Si on partait tous les jours sur Europe 1, deux grands voyages. Tout à l'heure, à partir de 17h, nous irons en Écosse, une des plus belles régions d'Europe. Je l'adore, on va vous en parler avec amour, on va vous bichonner ça. Ça va être un voyage aux petits oignons. Et puis, en première heure, maintenant, nous sommes en Gironde avec Emmanuel Jarry qui nous ramène le meilleur et le meilleur du meilleur. Hein, parce que la Gironde, on parle beaucoup des huîtres, on parle de l'agneau de Pauillac, des vins du Médoc. Mais vous avez trouvé encore mieux.
Oui, en fait, 95% du caviar français est fabriqué en Gironde. Alors, je ne sais pas si au Ferrail, on en mange beaucoup.
Est-ce que vous en avez ramené, au moins ?
Non, alors aujourd'hui, il n'y a pas de dégustation, les amis.
C'est dommage.
Oui, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esturgeon sauvage était présent depuis très longtemps dans l'estuaire de la Gironde et qu'autrefois, on le pêchait pour sa chair, qui était très prisée, qui était même envoyée dans plusieurs grandes villes, et notamment à Paris, où il était acheté très cher. Et en fait, on jetait les œufs de l'esturgeon.
Ouais. On jetait le caviar.
On jetait pas le caviar, on jetait les œufs d'esturgeon. Ça pouvait servir d'appât. Et c'est à peu près dans les années 20 que le savoir-faire des Russes est arrivé en Gironde. C'est même la maison Prunier. Je ne sais pas si vous connaissez ces grands restaurants à Paris qui avaient fait venir un réfugié russe pour renseigner justement cette façon de traiter les œufs d'esturgeon et les transformer en caviar. Et donc on a délaissé, enfin on continue de pêcher, de les élever maintenant les esturgeons, mais on délaisse un peu la chair au profit de ces œufs, quoi. Et alors, ce qui est très important, oui, c'est de dire quand même que l'esturgeon sauvage est protégé aujourd'hui. Hein, sa pêche est interdite depuis les années 80. Donc, on élève les esturgeons. Alors, moi, j'en mange pas tous les jours. Donc, je peux pas trop vous parler du goût.
Combien de fois par semaine ?
Oui, c'est ça.
C'est vrai ce que vous dites, là ?
J'en ai déjà goûté, mais je n'en mange pas tous les jours. Alors, je vais laisser la parole à Bruno Krapod, qui est un grand spécialiste des caviars du monde, qui en vend à travers sa société KVR. Et lui, qui connaît tous les caviars du monde, il aime particulièrement le caviar de Gironde.
La qualité de l'eau est primordiale, l'alimentation du poisson est primordiale, et puis après il y a le savoir-faire. Enfin, c'est un petit grain, c'est souvent sombre, mais c'est un caviar qui a du goût. Bon, c'est iodé, c'est un produit de la mer, ça ne doit pas sentir la vase, donc il faut que ce soit un caviar bien rincé. C'est un goût qui est unique.
Voilà. On a envie de goûter là.
Un goût unique.
Moi, j'ai une petite question à vous poser. Le caviar, les rares fois où j'ai pu en goûter, il y en a certains, c'est tellement salé qu'on se demande si ça vaut le coup de mettre autant d'argent.
C'est qu'il n'est peut-être pas très bon.
C'est qu'il n'est pas bon.
Ouais, voilà, comme le disait Bruno Krapod, ça doit quand même être assez doux, assez rond. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut le cuisiner, hein, mais moi, je trouve que quand on mange du caviar, c'est bien de le mettre sur un blinis avec éventuellement un petit peu de crème et de le manger comme ça. Et ça ne doit pas être trop sale, évidemment. C'est un produit marin.
D'accord. Et alors, quand on en a assez du caviar, quand vraiment on en a trop mangé, qu'on n'en peut plus, qu'est-ce qu'on peut
Il faut compenser quand même.
Qu'on mange ?
On peut se faire un beau plateau d'huîtres, parce que on connaît bien les huîtres du bassin d'Arcachon, les huîtres du Médoc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les huîtres sont arrivées par hasard dans la région.
Ah bon ?
En fait, c'est un bateau qui était parti du Portugal et qui se rendait en Angleterre avec une cargaison d'huîtres. Et puis, il a été pris dans une tempête, donc il a été dérouté vers Bordeaux. Et puis, les huîtres étaient avariées, donc il les a jetées par-dessus bord. Certaines ont survécu et elles ont colonisé la région.
Ah bon ?
Donc, voilà.
Ah, c'est incroyable cette histoire.
Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, à l'époque, c'était les huîtres portugaises. Aujourd'hui, comme on a parlé, Bernard Montiel, elles ont été décimées. Maintenant, il n'y a plus que des huîtres japonaises en France. Mais à l'époque, c'était les portugaises. Et encore avant, il y avait des huîtres plates, des huîtres sauvages dans le bassin d'Arcachon. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne le sait moins. On fait aussi de l'ostréiculture dans le nord du Médoc. Alors, le Médoc, c'est cette bande de terre qui est comprise entre l'estuaire de la Gironde et l'Atlantique. Et donc, tout au nord de cette bande de terre, on élève des huîtres. Et je vais vous donner une petite adresse. Ça s'appelle la Petite Cano. C'est tout au nord du Médoc, à Saint-Vivien-de-Médoc. Et pour y arriver, vous empruntez une route magnifique. Elle se termine par 2 km de piste. Donc là, il y a des oiseaux migrateurs. On peut même apercevoir parfois des cygnes noirs. C'est des espèces très rares. Et donc là, vous arrivez au bord de l'eau, les pieds dans l'eau. Vous commandez une assiette d'huîtres et vous mangez ça avec du pâté. C'est absolument délicieux.
Avec du pâté ?
Oui,
c'est les huîtres au pâté.
Exactement. Dans la région, on associe beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, la terre et la mer. Et donc, on mange les huîtres avec du pâté, avec de la crépinette aussi, qui est une forme. Oui.
Ça, c'est une bonne adresse pour mon prochain Lonely Planet. Ah.
Hein. Oui, mais j'aurais aimé la garder un peu secrète. Mais bon, j'ai l'esprit de camaraderie, alors je voulais partager. Et oui, les huîtres avec le pâté. Et la personne d'ailleurs qui fait ce pâté, elle fait aussi une autre charcuterie qui s'appelle le grenier médocain. Alors là, c'est un produit, il y a encore 50 ans, on le connaissait dans le Médoc et à Bordeaux, on ne le connaissait pas. Mais figurez-vous que le général de Gaulle était dingue de cette charcuterie et il s'en faisait livrer toutes les semaines à l'Élysée. Alors moi, j'ai essayé d'en faire livrer à Europe 1.
Il le mettait à la cave, son grenier d'ailleurs.
Et j'ai voulu en faire livrer, mais Europe 1 n'est pas l'Élysée et je ne suis pas le général de Gaulle. Donc ouais. Il n'y a pas de grenier. Alors qu'est-ce que c'est que cette charcuterie? C'est quelque chose d'un peu bizarre. C'est... Et de très simple, c'est de la panse de porc qui est salée, poivrée, aillée et bouillie.
De la panse de porc salée, c'est bon ça?
Ah, c'est délicieux. Et en fait, je vous explique un petit peu le truc. Donc elle est roulée sur elle-même.
Vous êtes une aventurière de la cuisine.
Mais écoutez, le général de Gaulle en mangeait. Il avait bon goût. Et en fait, donc,
tout le monde a ses sales goûts. Hein.
En tout cas, il faut cette panse de porc, on la roule sur elle-même, on la cuit dans un bouillon. Et c'est là où l'histoire devient complètement incroyable. Donc ce bouillon, parce qu'autrefois on tuait le cochon l'hiver, donc on met des légumes d'hiver. Mais ce bouillon, il se transmet de génération en génération, de père en fils. Ouais. Et dans la région, il y a des bouillons qui ont plus de 50 ans.
Parce que ça se garde?
Ça se garde.
50 le bouillon. Ans le bouillon?
Oui, 50 ans. Comment le bouillon.
Mais c'est un nid à bactéries, là.
Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'on régénère le bouillon. Et figurez-vous qu'il y a...
Comment ça, on le régénère?
Eh bien, on le fait bouillir à 100 degrés. Après, on le met au frais. Ah. Et à chaque fois qu'on recuit du grenier médocain, on rajoute des légumes, et notamment des petits poireaux qu'on trouve uniquement dans les vignes. Et alors, il y a une confrérie du grenier médocain. Et c'est comme ça que je le connais, parce qu'il y a 6 mois, ils m'ont appelé, ils ont voulu m'introniser dans la confrérie.
Vous y êtes allé prudemment, visiblement. Mais...
ça n'a pas pu se faire à cause du confinement. Etc. Mais l'année prochaine. Et alors, le grand maître de la confrérie, qui est Sylvain Andreux, un grand charcutier qui fait ce grenier médocain, m'a dit que son bouillon à lui avait 3 ans.
Mais quand il part en vacances, il fait comment?
Ah ben, il est réfrigéré. Et puis, de toute manière, ces charcutiers-là, ils ne partent pas en vacances. Ils sont passionnés. Toute l'année, ils s'occupent de leur...
Moi, je verrais bien Philippe aussi grand maître dans cette confrérie, non?
Ça vous dirait pas? Moi, j'irais prudemment. Moi, je suis comme Emmanuel.
Un bouillon d'année de votre naissance, vous ne voulez pas?
Ouais.
Évidemment, c'est une texture un peu particulière parce que ça n'est que de la panse de porc roulée sur elle-même. Mais c'est intéressant de voir comment on a utilisé toutes les parties du porc à une époque.
Très bien. Je ne savais pas que votre chronique serait une chronique de cascade. Mais merci, Emmanuel.
Aventurière du goût.
À suivre sur Europe 1. Tous les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier pour ne rien rater de la Gironde. Mais tout de suite, pour se détendre, un petit Pascal Obispo tombe pour elle.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous voyageons tous les après-midi sur Europe 1, entre 16h et 18h. Nous sommes dans le bassin d'Arcachon, en Gironde. Nous goûtons cette région, on la goûte plus qu'on ne la visite, parce que ce n'est que saveur et délices. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, comment on fait pour l'aborder, cette région?
On va l'aborder par un monument. Vous l'avez effleuré du bout des lèvres en début d'émission, cher Philippe.
Le phare.
Le phare de Cordouan. Et vous savez ce qui se passe actuellement avec le phare? C'est qu'il est officiellement candidat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président Macron l'a inscrit, l'a validé en 2019. Et en fait, le vote devrait intervenir ce mois-ci, au mois de juillet, sauf qu'avec la crise sanitaire, il va y avoir un petit décalage dans ce vote à l'UNESCO. Donc il est officiellement en lice pour représenter la France sur la prochaine candidature au patrimoine mondial de l'humanité. C'est très important, tous les Bordelais, tous les Girondins sont très motivés par ce classement.
Et c'est le plus ancien phare français en activité. Et
voilà, il a un côté historique, il date du XVIIe siècle, c'est le plus ancien donc phare français, il faut le dire. C'est une prouesse architecturale aussi, parce qu'il s'élève en pleine mer, sur un minuscule îlot rocheux, au carrefour entre les eaux de la Gironde et les flots de l'Atlantique. Donc c'est vraiment, au niveau de l'ambiance, c'est extraordinaire. Et surtout, ce n'est pas simplement un beau monument qu'on peut admirer de loin, on peut le visiter. Même s'il est complètement isolé au milieu de l'estuaire, il est accessible à marée basse uniquement. Alors bien sûr, il faut faire un petit peu de trempette, il y a des vedettes qui vous y emmènent par bateau, c'est ce que j'ai fait. Alors après, il faut marcher un petit peu une dizaine de minutes, on a de l'eau jusqu'aux genoux, mais c'est une expérience absolument magique. Surtout qu'à l'intérieur, on découvre un espèce de palais, il y a du sol en marbre, des vitraux, et on peut monter jusqu'à la lanterne, il y a 311 marches. Alors là, la vue sur tout l'estuaire, c'est exceptionnel, c'est la plus belle vue sur l'estuaire de la Gironde, voilà.
Ouais, ça doit être très très chouette.
Et je précise, le site est réouvert depuis le 11 juillet. Voilà, le phare.
Donc ça vient de réouvrir.
Et ça alors, vient de l'ouvrir, exactement. Ouais.
Et sur, si on longe l'estuaire de la Gironde, il y a des pépites.
Ah ben j'adore les bords de l'estuaire, surtout la rive sud, côté Médoc, hein, le côté Médoc qu'Emmanuel a évoqué tout à l'heure.
Pour le grenier.
Mais est-ce que vous avez remarqué que quand on passe de la rive droite, alors le Médoc c'est rive gauche, quand on...
Moi je dis rive sud, rive nord, comme ça je ne me trompe pas.
On change d'ambiance.
Mais c'est complètement incroyable, la différence d'ambiance entre les deux rives. Alors je commence déjà par la rive sud. La rive sud, c'est la partie médocaine, justement. Il y a plein de cabanes de pêcheurs le long de cet estuaire. Certaines ont été transformées en ateliers d'artistes, d'autres en guinguettes. On vient pour y faire la fête. Ah, j'adore ça, mais il n'y a pas de chichi. On vient là pour faire la fête, pour déguster des huîtres, Emmanuel vous l'avait dit, et puis des petites crevettes locales qu'on appelle les esquires.
Oui, voilà. Tout à fait.
C'est super bon. Bon, c'est très simple, c'est une cuisine de guinguettes, mais on se régale. Il y a souvent des concerts aussi, des animations, et là vous passez un super bon moment entre amis.
Il y a du bon vin.
Et, bien sûr, on arrose tout
c'est
ça.
C'est l'essence de la guinguette.
C'est absolument génial. Et puis, les grandes stars de cet estuaire de la Gironde, je vais en parler maintenant, ce sont les fameux carrelets. Les carrelets, ce sont des cabanes sur pilotis qui sont reliées à la rive par un ponton en bois. Au bout de ces cabanes, il y a une espèce de filet carré. Vous mettez à l'intérieur de cette cabane et vous actionnez un petit treuil. Vous descendez le filet de pêche à marée haute et vous le remontez ensuite. Avec un peu de chance, vous aurez quelques éperlans, quelques crevettes. Et avec vos amis, vous faites une petite cuisine à la bonne franquette. Le but, c'est la convivialité.
Moi, j'appelle ça la sociabilité de l'eau. Parce qu'en fait, c'est vraiment des endroits où on partage. Quoi.
Mais tout le monde peut utiliser ces carrelets.
Oui, on peut les louer. Il y a des particuliers, ça appartient souvent à des particuliers. Et ils les louent, on peut les louer avec vos amis à la journée. C'est vraiment une expérience que je recommande. Et ça fait partie de l'expérience médocaine.
Donc là, on était côté Médoc, rive gauche, comme dit Emmanuel.
Alors, rive nord. Rive nord, on change complètement. C'est là ce qu'on appelle la Haute Gironde.
Et là, c'est la rive nord. Là,
c'est
le Gironde,
secteur de Blaye et de Bourg, les fameuses appellations Côte de Blaye, Côte de Bourg. C'est là-bas, c'est en face de l'autre côté de la Gironde. Décor totalement différent. Ce que j'adore là, c'est le long de cette côte, il y a des maisons qui sont troglodytiques, des maisons qui sont encastrées dans les falaises. Il y a des falaises sur cette rive-là. C'est vraiment incroyable. En fait, ce sont d'anciennes carrières qui ont servi à transporter de la roche jusqu'à Bordeaux au siècle dernier. Et en fait, les pêcheurs, les ouvriers du coin se sont rendus compte que ces orifices dans la roche pouvaient faire des maisons. Donc, ils se sont installés là. Donc, en fait, vous pouvez suivre la route de la Corniche Fleurie, c'est la D669 qui vous permettra de découvrir ce superbe patrimoine architectural et naturel.
Emmanuel.
On a parlé tout à l'heure de la rivalité entre Arcachon et Ferret, et là il y a une certaine rivalité entre ces...
C'est deux mondes qui s'ignorent en fait. C'est deux rives et deux mondes qui s'ignorent.
Alors que c'est une demi-heure de Bac de traverser.
Mais c'est large quand même.
Mais c'est là, ça fait quelques kilomètres seulement, Philippe.
Vous savez que l'estuaire, c'est la frontière entre la langue d'Oï et la langue d'Oc.
Donc c'est vraiment deux mondes qui s'ignorent complètement. Fascinant.
Et si on parle peu de baignade finalement, alors qu'il y a beaucoup d'eau.
Alors, le problème, je pense que les Girondins vont abonder dans ce sens, c'est que leur océan, comme ils disent, il est un petit peu oppressant, franchement.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a des gros rouleaux, il y a des grosses vagues, il y a des courants, ce qu'on appelle les baïnes. Moi, j'ai déjà été emporté par ces baïnes.
Ah oui ?
À l'époque, j'ai fait une formation de sauvetage en mer, il y a très longtemps. Et pour tester ce courant-là, je me suis laissé emporter volontairement dans les baïnes. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est vrai que l'océan fait peur. Il y a de très belles plages, mais l'océan lui-même, pour la baignade, c'est pas génial. À moins d'être surfeur, évidemment. Mais sinon, l'avantage, c'est qu'il y a des lacs d'eau douce tout près de l'océan, notamment celui de Carcan-Ourthain. C'est le plus grand lac d'eau douce de France. Et là, on a tous les avantages de l'océan, sauf les inconvénients. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vagues, mais il y a plein d'activités nautiques qu'on peut pratiquer sans danger. Planche à voile, paddle et ski nautique. Le rêve.
Merci beaucoup Jean-Bernard pour tous ces bons tuyaux. Dans un instant, après le flash de 17h sur Europe 1, je vous emmènerai dans un de mes endroits préférés en Europe, dans le pays des légendes, des châteaux hantés, des lacs mystérieux et des brumes qui tombent le soir sur la Bruyère. Nous partirons en Écosse. A tout de suite sur Europe 1.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène aujourd'hui dans un pays dont il suffit à peine de prononcer le nom et tout de suite, vous êtes ailleurs. Dans un monde de légendes, de brumes, de bruyères, de montagnes douces qui jouent avec des nuages sombres, de châteaux solitaires qui dominent des lacs fouettés par le vent. Je vous emmène aujourd'hui en Écosse. L'Écosse, c'est pour moi un des endroits les plus romantiques d'Europe. L'atmosphère est envoûtante et pour moi, il y a une légende écossaise qui ne s'éteindra jamais. C'est celle de la célèbre panse de brebis farcie. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce plat écossais qui, a priori, écœure tout le monde. Et moi, je me souviens que mon père écoutait tout le temps à la maison, il y a très 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 longtemps, un vieux sketch de Jacques Baudouin. Et voilà ce que ça donnait. La scène se passe dans un château écossais et c'est une vieille écossaise qui fait goûter la panse de brebis farcie à un Français de passage, un peu snob.
Monsieur le Français, j'espère que vous avez apprécié cette spécialité du pigment écossais extrêmement savoureuse.
Ponce de brebis farcie.
Oui, Ouh là là. Je vais peut-être vous surprendre. Quand on l'a apporté sur la table, n'est-ce pas? Tout d'abord, j'ai cru que c'est de la crotte.
Oui, je sais, c'est horriblement vulgaire et dangereusement précis, j'en conviens, n'est-ce pas? Et puis alors après, une fois que j'y ai eu goûté tout ça, j'ai regretté que ça n'en fût pas.
Voilà, donc la panse de brebis farcie, a priori, tout le monde trouve ça dégoûtant. Mais moi, je suis allé voir, j'ai mené l'enquête, parce que la panse de brebis farcie, ça existe vraiment en Écosse. Et je suis allé chez un charcutier réputé, dans un petit village écossais. Et voilà ce que j'ai découvert. Alors tout d'abord, en Écosse, la panse de brebis farcie ne s'appelle pas du tout panse de brebis farcie. Il n'y a que les Français pour l'appeler comme ça. Les Écossais, eux, ils disent tout simplement c'est du haggis, ce qui veut dire en gros le hachis. Car, et ça c'est très important, les Écossais ne mangent que la viande hachée, la farce, jamais la panse. Donc, la dénomination panse de brebis farcie donnée par les Français, à mon avis, c'était déjà une façon de se moquer un petit peu. Mais bon, je demande au charcutier de me faire découvrir ça. Alors, il est au petit matin en train de touiller un énorme mélange de viande qui mijote. Alors, je lui demande ce qu'il y a dedans. Alors, il me répond, il y a des poumons, il y a des foies, il y a de l'épaule, il y a du gigot. Ça cuit toute la nuit pendant 12 heures. Et je lui demande, il y a combien de brebis dans ces grandes marmites? Il me répond, 150, peut-être 200. Donc, du coup, je demande quand même, vous n'avez pas un petit regret, un peu de culpabilité face à la mort de toutes ces brebis? Et là, il me répond, aucun. Elles sont nées pour ça, elles sont born to be haggis. Alors évidemment, moi ça me fait penser à born to be alive, c'est pas la même idée, mais ça chante aussi born to be haggis. Alors ensuite, la viande est hachée. Le charcutier, il met des épices un peu secrètes, ça il n'a jamais voulu me dire. Et il glisse le tout dans des sortes de petits sacs en plastique transparent. Un peu comme des ballons qu'on gonflerait au hachis. Et les ballons sont plongés dans l'eau bouillante pour une nouvelle cuisson. Donc là, moi, j'en crois pas mes yeux, parce que quand même, je lui dis... Donc vous mettez la farce dans des sacs en plastique? Et là, il me répond, oui, il faut vivre avec son temps. 95% du haggis aujourd'hui est fabriqué comme ça, avec des poches en plastique. Et le plastique résiste bien mieux à la cuisson que la panse de brebis. Et c'est beaucoup plus hygiénique. Et puis en plus, ça a le même goût. Donc c'est un mythe qui s'effondre. Ainsi, dans la plupart des cas, la panse de brebis farcie, c'est une poche en plastique qui résiste à la chaleur de la cuisson. Alors il me dit quand même, 95% du haggis est fabriqué comme ça, donc il y a un petit espoir. Alors je lui dis, mais pour les 5% qui restent, comment on fait? Et là, il dit, on utilise une enveloppe naturelle. Ben, je suis rassuré, je pense que c'est de la vraie panse de brebis. Et la surprise numéro 2, il ajoute, oui, on met ça dans de la panse de vache, parce qu'on trouve ça plus facilement. Donc le résumé, c'est que la panse de brebis farcie n'est jamais de la panse de brebis. Jamais. Et ça, me dit-il, c'est un secret écossais. Ça reste entre nous. Et il se met à rigoler. Voilà donc toute cette histoire qui a accompagné toute mon enfance. L'histoire de la panse de brebis farcie. Un récit écossais qui a quand même traversé les siècles. Eh bien, la panse de brebis farcie, finalement, c'est une simple chair à saucisse.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Bien d'autres histoires écossaises dans un instant, bien au-delà de la chair à saucisse. Nous irons dans les vallées brumeuses, dans les châteaux hantés, sur les côtes découpées qui effraient les marins. Nous poursuivons notre voyage en Écosse dans un instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Ah, on y est là. On y est. Nous sommes en Écosse. Tous les après-midi sur Europe 1, un grand voyage. Nous sommes au cœur des Highlands. Alors, Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, quand même bien situé l'Écosse et les Highlands.
Alors, l'Écosse, c'est un territoire qui se trouve tout au nord de l'Angleterre. Alors, je dis territoire et pas pays. Oui. Attention.
Oui, ça fait partie du Royaume-Uni.
Voilà, ça fait partie du Royaume-Uni, comme le Pays de Galles, d'ailleurs. Mmh. Alors, l'intérieur de cette Écosse, il est vraiment... Les paysages sont absolument sublimes. Vous l'avez dit, il y a des plaines et il y a ces fameux Highlands qui sont des vallées en forme de U. Et il y a des lochs, ce sont des lacs. Donc, la nature est sublime. Il y a des forêts, il y a des cours d'eau, il y a des landes. On trouve absolument de tout. Et puis, il faut aussi savoir que l'Écosse, c'est aussi quatre archipels. On les oublie un petit peu facilement, mais c'est les Shetland, les Orcades, les Hébrides extérieures et les Hébrides intérieures.
C'est des îles qui sont tout au nord.
Alors, exactement, elles sont tout au nord-est, ouais. Exactement. Voilà. Une petite idée de distance quand même.
Ouais.
Voilà, 80 000 km², ça fait la surface d'une grande région française. Et du nord au sud, au maximum, on a 450 km. Mais c'est que des routes sinueuses, attention.
Ouais, c'est très long.
Et d'est en ouest, 250 km. Pareil, beaucoup de routes sinueuses.
Alors, nous sommes en ligne avec une Française qui est installée à Édimbourg. Quelle chance vous avez, Sophie Malœuvrier. Vous savez que vous avez fait quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Je suis allé de nombreuses fois en Écosse parce que vraiment, j'adore ce pays. Et à chaque fois, je me dis, ah, j'aimerais vivre là, mais j'ose pas. Et vous, vous l'avez fait.
Bonjour, oui, bonjour. Effectivement.
Et alors, je trouve que les paysages d'Écosse, qui procurent des sensations très fortes, sont difficiles à décrire en fait. Parce qu'on dit toujours la brume, les côtes découpées par les nuages, les châteaux de contes de fées. Mais en fait, l'Écosse, je trouve, et surtout les Highlands, ce sont des sensations. C'est un lieu où vous pouvez vous asseoir pendant des heures et juste regarder une petite île dans le lointain, un peu vert émeraude, avec une petite maison blanche dessus. Et l'Écosse, on a toujours peur de ne pas avoir les mots pour la décrire.
Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, on peut s'asseoir à différents endroits dans la région et voir toujours quelque chose de différent aussi. Ouais.
Parlez-moi des Shetlands, par exemple. Je sais que c'est une région que vous aimez tout particulièrement.
Alors oui, l'archipel des Shetlands, donc j'y suis allée pour la première fois il y a 2 ans. Et ouais. Du coup, l'expérience, elle commence déjà quand on prend l'avion, en fait. Ouais. On est dans un tout petit coucou régional et en fait, on atterrit sur l'île principale. À ras de l'eau, et puis on traverse une route en plein milieu du terre-plein. Et là, on fait, où est-ce qu'on est? Vraiment.
C'est-à-dire qu'on traverse une route.
Exactement.
D'accord.
Et en fait, il y a un petit passage à niveau, comme pour les trains, en fait. Et donc, juste avant l'atterrissage de l'avion, il y a quelqu'un qui ferme ses passages à niveau pour que les voitures s'arrêtent. Et puis, on voit les avions passer comme ça. Rien qu'avec ça, déjà, on est dépaysé dès le départ.
À quoi ressemblent les paysages des Shetland?
Alors, ils sont très variés, c'est ça qui est superbe. Donc, on a bien évidemment les plaines typiques de l'Écosse, dont on a l'habitude avec les landes et les marais, les espaces marécageux. Mais on a aussi de superbes falaises qui tombent directement dans la mer, avec juste au-dessus un phare. C'est assez incroyable. On a différents paysages, différentes sensations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nature est partout et on se sent tellement bien là-bas. Mmh. C'est assez magique.
Il y a des phoques aussi. Emmanuel,
est-ce qu'on voit ces poneys dont on parle, les poneys des Shetland qui ont l'air tout doux avec des grands poils?
Oui, et alors on peut les voir. Alors il n'y en a pas autant qu'on peut penser, mais on peut les voir dans les champs et aller les rencontrer. Ils sont super friendly, comme ils disent par chez nous. On peut facilement les approcher et les caresser. Ils sont adorables.
Jean-Bernard.
Alors moi, ce qui me fait rêver au Shetland, je prévois d'y aller, c'est pour voir les fameux oiseaux. Il y a des macaremoines, il y a des fulmars, il y a des guillemots. Est-ce qu'il y en a toujours autant qui nichent sur les falaises dont vous venez de parler?
Oui, alors il faut y aller à la bonne saison parce que effectivement, ce sont des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, donc par exemple pour les macaremoines, il faut venir pendant l'été. Ils sont là entre mai et début août à peu près. Donc ça, par exemple au Shetland, on peut les voir sur les falaises des Shannes, et on peut aussi les voir au sud à Sumburg, juste à côté de l'aéroport.
Ah, oui.
Après, on voit aussi dans le nord, sur l'île de Hunst, qui est tout au nord, on peut voir sur d'autres falaises aussi toute une colonie de fous de bassin.
Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant.
Alors,
cette colonie, elle est juste extraordinaire. On entend ces bruits, ces odeurs, C'est une avalanche pour l'essence, vraiment, ouais. En bien et en mal aussi, parce que vous imaginez les odeurs.
Mais,
c'est vraiment un endroit.
Parlez-moi des maisons, à quoi ressemblent les maisons?
Alors, sur les îles Shetland, ça dépend. Dans les villages, on a ces maisons en pierre, très foncées, au bord de la mer. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission, la série Shetland, par exemple. On voit très bien ces maisons assez sombres. Mais il y a aussi des maisons qui sont un peu type scandinave. On pourrait se croire un petit peu en Suède, avec des toits rouges et en tôle. C'est assez étonnant. En fait, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on est, mais la ville et la campagne est un peu différente.
Ouais. Et surtout, cette sensation très étonnante qu'on retrouve en Écosse, qui est à la fois l'impression d'être seul au monde, dans un paysage impressionnant qui vous écrase un peu, et puis en même temps comme protégé par ce même paysage. C'est la sensation des déserts, mais dans le vert. C'est vraiment très riche en émotions, l'Écosse. C'est magnifique. On continue à en parler dans un instant avec vous, Sophie Malœuvrier. Nous sommes en Écosse jusqu'à 18h.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait, nous sommes dans les paysages d'Écosse, ces paysages qui vous prennent aux tripes dès que vous y êtes tout seul. Là. Imaginez-vous dans le vent, avec la brume, les moutons qui se répartissent sur un paysage tout vert, avec la mer dans le fond, c'est magnifique. C'est comme si le temps s'arrêtait. Et ce qui fait aussi beaucoup le charme de l'endroit, ce sont les Écossais qui sont très très chaleureux en général et en même temps très attachés avec leur tradition. Il y a beaucoup d'humour en même temps dans leur tradition. C'est ce mélange de tout ça qui fait le charme de l'Écosse. Et moi, je vous conseillerais, si vous avez le choix dans les dates, c'est d'aller là-bas au moment des Highland Games. Alors, les Écossais vous diront que les Highland Games, qui est une sorte de mélange de kermesse et de tournois sportifs, sont tout simplement à l'origine des Jeux Olympiques, carrément. Et ils vous diront que c'est les Grecs qui ont copié. Alors bon, disons que ça se discute, hein. Ça se discute au autour d'un bon whisky. Mais ces jeux, c'est super parce que vous avez tout. Vous avez le paysage, ça se passe dans un beau décor, en pleine nature, au bord d'un lac. Et puis il y a la tradition avec beaucoup de kilt. Il y a le petit air de cornemuse qui va bien. On danse pas mal, il y a des concours de danse écossaise. Et même les jeunes viennent faire des concours de danse, c'est pas... La tradition là-bas, c'est pas un truc d'ancien. Hein. Y a plein de jeunes qui viennent faire des compètes. Et puis, il y a la compète sportive proprement dite, qui est de haut niveau, avec un classement officiel, inter-région écossaise. Alors, vous avez le tir à la corde, bien sûr, avec deux équipes qui se mettent chaque côté d'une corde et c'est celui qui tire le plus fort qui gagne. Bon, ça, c'est classique. Vous avez le jeté de pierre. Ça paraît rustique, mais quand vous regardez bien, et là, c'est là qu'ils ont peut-être raison sur les Jeux Olympiques, c'est que ça ressemble au lancer de disque, mais avec une grosse pierre. Et puis alors, moi, mon préféré, c'est le lancer de poteau télégraphique. Alors ça secoue. On peut appeler ça aussi, là-bas, le lancer de tronc. Alors, ça paraît simple, mais il faut être vraiment costaud. Il faut tenir un poteau télégraphique, c'est très haut, hein, ouais. Ça fait 2-3 mètres de haut. Il faut tenir un poteau verticalement contre vous. Vous courez. Vous le lancez vers le ciel de telle façon qu'il retombe verticalement en se retournant complètement, c'est-à-dire en se plantant dans le sol, la tête en bas.
C'est une forme de gros javelot, Philippe. Hein.
Alors oui, c'est ça, c'est un peu l'ancêtre du javelot. C'est hyper physique et les gars qui font ça, ils le font pour l'exploit sportif.
Ah, c'est des costauds. Hein.
Et oui, ils sont hyper musclés, mais aussi pour le plaisir de se sentir écossais. Et là, quand vous assistez à ces jeux, à ces Highland Games, vous êtes là aussi, très très loin.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Sophie Malœuvrier, vous êtes installée à Édimbourg, vous êtes en direct depuis l'Écosse avec nous, vous êtes la fondatrice de l'agence de voyage, Glenvoil. Le côté kilt, c'est un truc qui est très pratiqué en Écosse, c'est pas que folklorique.
Non, pas du tout. En fait, c'est un peu le costume de l'Écossais. Ouais. On a tous les Écossais, et les non-Écossais d'ailleurs, en ont un dans leur placard. Ils l'utilisent pour vraiment toutes les soirées un peu formelles, pour aller à des mariages, pour aller, je sais pas, à des soirées de Noël de leur entreprise, ce genre de choses.
C'est vraiment quelque chose de très sérieux. C'est quand on veut aller à quelque chose d'officiel. C'est pas pour plaisanter.
Ah non, pas du tout, non. Non, non. On a même différents kilts, types de kilts. Donc, il y a ils appellent ça le day kilt, donc le kilt de jour, qui est un peu moins formel, ouais. Qui peut être en tweed, par exemple. Et puis, ils ont aussi le kilt vraiment formel, donc avec la petite veste courte noire, avec les petites épaulettes.
C'est le smoking du kilt, en fait.
C'est ça, exactement.
Emmanuel,
est-ce que c'est vrai que les hommes sont nus sous leur kilt?
Ah, j'ai pas osé la poser.
Je savais pas qui allait la poser. Je pensais que c'est Nathalie qui allait la poser, mais non. Vous avez fait griller.
Mais je m'y attendais aussi à celle-là. Bah alors en fait, je sais pas si je dois détruire le mythe ou pas, ou enfin, je sais pas si je dois dire la vérité en fait.
On veut la vérité. Ouais. Oui.
La vérité, ça dépend. Ah. Alors si c'est le vôtre,
ça
peut-être.
Dépend, ça dépend.
Si
dépasse,
c'est pas,
quoi.
Si. Oh. Voilà. Si c'est votre kilt, certainement. Si vous le louez, non.
Comment ça, si c'est votre kilt, certainement? Je ne comprends pas.
Bah oui.
Si le kilt vous appartient.
Ah,
et que,
si, vous appartient. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi.
Voilà.
D'accord.
Mais pourquoi, pas suivi, d'ailleurs, on était nus sous les kilts? On sait pourquoi, non?
Ça, je ne sais pas, non, mais certainement pour l'esprit de liberté, je crois, qu'ils aiment bien ça. Alors, c'est agréable, apparemment.
Il y a une blague écossaise qu'on me raconte là-bas, mais elle fait rire que moi. Mais vous allez me dire si vous, ça vous fait rire. C'est que j'ai demandé un jour à un Écossais pourquoi est-ce qu'ils avaient les genoux à l'air libre, alors qu'ils, avec un kilt, vous voyez, ça s'arrête un peu au-dessus du genou, et alors qu'il fait froid en Écosse. Et l'Écossais m'a répondu, et je trouve ça très drôle, mais il n'y a que moi qui trouve ça drôle, c'est que les kilts ne mangent pas de chaussettes.
C'est du lourd écossais.
D'accord.
Non, ça fait rire personne. C'est
non, mais c'est du lourd écossais.
Mais c'est rigolo, non?
Oui.
Je préfère l'humour britannique, c'est-à-dire l'humour anglais quand même.
Alors, est-ce que on joue beaucoup de la cornemuse aussi là-bas?
Alors, la cornemuse, j'ai réfléchi beaucoup, mais en fait, on connaît très peu de gens qui jouent de la cornemuse.
Ah bon?
On l'entend souvent à Édimbourg, dans les rues d'Édimbourg. Ça donne un sacré cachet à la ville, un petit plus. Mais non, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent de cornemuse en Écosse.
Ah ouais? Pourtant, j'avais l'impression que, en y allant, qu'on l'entendait un petit peu partout, au coin d'un château.
Mythe, là, quand même,
ouais, vous nous cassez le mythe, là. Parce que...
Ah, pardon.
Vous venez nous briser le rêve. Parce que c'est quand même des airs qu'on entend un peu aux quatre coins du pays quand on se balade. La cornemuse, d'ailleurs... Moi, je trouve que c'est un instrument absolument mythique et qui est d'ailleurs très, très puissant en son. Quand vous êtes près d'une cornemuse, j'aime autant vous dire que ça secoue, c'est très fort. Et c'était d'ailleurs tellement puissant que c'était utilisé dans l'armée. Pendant la Première Guerre mondiale, les cornemuses étaient là pour galvaniser les troupes. Et les Écossais étaient d'ailleurs craints par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Qui les accusait de férocité et qui, parce qu'ils menaient la charge avec la cornemuse, et les Allemands les nommaient les flammes de l'enfer. Ouais, tellement c'est puissant, et je pense que tous ceux qui ont assisté à des concerts de cornemuse,
c'est vraiment impressionnant,
savent la puissance que ça dégage, ça fait des frissons.
Ça prend aux tripes, vraiment.
Ça prend aux tripes, exactement. Sophie, je voudrais vous poser une dernière question. Vous allez me dire que j'aurais fait tous les clichés, mais franchement, on ne peut pas ne pas vous la poser. Le Loch Ness, le monstre du Loch Ness, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Écossais?
Alors forcément, ils aiment bien entretenir le mythe, hein, parce que c'est quand même important, c'est quand même une légende que tout le monde connaît. Mais après, on l'a pas vraiment vu celui-là, donc.
Sophie, il paraît qu'il y a un scientifique néo-zélandais qui a fait une étude tout à fait récente, il y a juste un an, et qui a démontré qu'on avait trouvé beaucoup d'ADN d'anguille au fond du Loch Ness, qui voudrait dire peut-être que juste Nessie est une grosse anguille, mais qui serait pas encore passée en cuisine pour la matelote. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bah c'est totalement probable, oui.
Mais il est glissant comme une anguille, hein.
Oui, pourquoi pas. Franchement, je demande encore à voir. Je demande encore à voir, mais on n'a pas encore vu le vrai. Quoi,
il faut rester patient. On va maintenir la légende. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un monsieur qui a dédié sa vie d'ailleurs au bord du loch à attendre Nessie.
Absolument.
Alors, peut-être que lui l'a vu, je ne sais pas.
Sophie, vous restez avec nous en direct depuis l'Écosse. Pour l'instant, on va faire une petite pause avec Grand Corps Malade, mais je t'aime.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous voyageons, nous sommes en Écosse, et ça va être encore un moment émouvant, peut-être effrayant, Nous allons partir chasser le fantôme avec Nathalie Elal.
Oui, et c'est pas du tout un cliché, vous allez voir, en Écosse, de parler des fantômes. Je vous emmène au château de Glems, dans le comté d'Angus. Ouais. Alors, c'est le château le plus hanté au monde.
Ah bon ?
On y recense pas moins de 9 fantômes officiels. Enfin, si j'ose parler ainsi, évidemment. Alors, c'est un régal hein, pour tous les passionnés du paranormal, parce que sinon, pour les autres, c'est plutôt un château austère et très, très impressionnant.
Ouais.
Alors, déjà, avant sa construction au XIVe siècle, les choses commencent mal. Parce que dès le début, Philippe, il y a une attaque surnaturelle. Chaque fois qu'on tente de poser des fondations, le chantier est secoué par un tremblement de terre ou un tourbillon.
Ah bon ?
Et puis, il y a un cri prophétique qui résonne. « Ces collines sont sacrées ! Ne construisez pas ici !» Enfin, je fais la voix du fantôme, hein.
Ouais,
enfin,
ouais,
plus
c'est
ou
pas
moins.
Mal, c'est pas mal. Ouais, ça n'y est pas mal. Mais il y a des fantômes connus.
Oui, oui, ils sont dans le bottin mondain d'ailleurs. Oui, alors il y en a une, j'aime beaucoup, c'est Janet Douglas. C'était une lady, elle a été brûlée vive pour sorcellerie au XVIe siècle. Évidemment, elle n'était pas du tout coupable, hein, c'est un faux témoignage. En tout cas, on l'a surnommée Grey Lady, c'est-à-dire la dame grise.
Ouais.
Et elle aurait coutume de venir s'asseoir au fond de la petite chapelle familiale du château de Glems.
Ooh.
Autre légende et autre fantôme, le monstre de Glems. C'est un enfant né difforme en 1821 dans la famille d'un comte habitant les lieux. Et l'histoire dit qu'il aurait été gardé reclus toute sa vie dans le château et sa chambre murée après sa mort.
C'est horrible.
Oui, c'est horrible.
Mais est-ce que. Mais ils ont de mauvaises intentions, ces fantômes ? Ils sont méchants ?
Bah,
ils sont...
Écoutez, forcément, tous les fantômes ne sont pas sympathiques, évidemment. Il y en a une autre encore d'histoire, je n'ai pas fini. Un certain Alexander Lindsay, le 4e comte de Crawford au 15e siècle, invité au château. Alors, une nuit, il demande à jouer aux cartes alors qu'il est complètement ivre. Évidemment,
ouais.
Ses hôtes refusent sa proposition, donc il est furax et il déclare solennellement qu'il jouerait aux cartes avec le diable lui-même.
Ah bon ?
Un inconnu se présente alors au château et demande s'il souhaite un partenaire aux cartes, si quelqu'un veut jouer. Donc évidemment, il accepte. Ils commencent à jouer tous les deux dans une des chambres et plus tard, les serviteurs entendent des hurlements et des malédictions proférées venant de la pièce. L'inconnu disparaît en portant l'âme du comte avec lui. Mais de nombreuses personnes prétendent avoir entendu des cris et des bruits de dés. On prétend que le comte continuerait de jouer aux cartes avec le diable. Bref, vous l'aurez compris, le château de Glems, il n'est pas du tout glam.
Oui, je vois ça.
Je crois que je ne vais plus du tout mettre les pieds dans un château en Écosse. C'est le problème.
Bon, dis donc. Mais j'adore, parce que c'est le décompte des châteaux les plus hantés. Parce que qui compte officiellement comment ça se passe ?
Ah ben, ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'amuse à répertorier, mais à mon avis, il y a du boulot quand même.
Ouais,
c'est
ouais.
Sérieux. Hein.
Mais c'est vrai que j'adore l'ambiance des châteaux écossais. Sophie Molevrier, vous êtes toujours en direct avec nous depuis l'Écosse. On a beaucoup parlé des châteaux hantés, on a beaucoup parlé des Highlands, mais on n'a pas parlé d'Édimbourg. Quelle est l'ambiance à Édimbourg ?
Ah, on n'est pas loin du château hanté aussi, parfois. On est surpris par la vieille ville qui est très, qui date de l'époque médiévale.
Ouais.
On a encore toutes ces vieilles maisons en bois. On a vraiment une atmosphère assez, assez particulière. Et la nuit, il faut se méfier aussi. Hein. Je
Pourquoi
suis persuadée que vous êtes suivi par un fantôme.
Ah oui?
Ouais.
Et les légendes.
Oh oui, c'est sûr.
Oui,
oui, parce que le château d'Édimbourg, il a aussi une très sale réputation. Il paraît qu'il y a un capitaine ou un soldat qui se balade avec sa tête sous le bras. Enfin, un fantôme, bien sûr. C'est ce qu'on raconte, non, Sophie ?
Oui, effectivement. Oui, c'est une légende. Je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais oui.
Je me doute.
Je pense qu'il est là.
Je vous le souhaite peut-être pas, d'ailleurs. Hein, comment vous dire ?
Non.
Non, je pense qu'on voit beaucoup de fantômes quand on sort des pubs.
Ah oui, c'est ça.
C'est un peu ça.
C'est des claquements de bière.
C'est ça. Merci beaucoup, Sophie Molevrier, d'avoir été avec nous depuis l'Écosse. Je rappelle que vous avez fondé l'agence de voyage Glenvoile. On poursuit notre voyage parmi les mystères de l'Écosse, dans un instant, sur Europe 1.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait tout l'été sur Europe 1 ? Je vous emmène en voyage dans les endroits les plus étonnants, les plus savoureux de la planète, juste pour le plaisir de se balader dans l'esprit, dans l'imaginaire, comme ça, en rêve, librement. Alors, on a parlé tout à l'heure du haggis, la panse de brebis farcie, cette grande spécialité écossaise. On connaît tous le saumon écossais, mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre parce que finalement, on ne sait pas bien, Emmanuel Jarry, oui, sur cette terre.
Et on ne le sait pas bien d'ailleurs, parce qu'il y a plein de produits qu'on pêche, par exemple, en Écosse. L'Écosse est une île, ce sont des îles, on l'a dit, qui sont bordées d'eau pure.
Ouais.
Et ces produits qu'on pêche, on ne les trouve pas forcément sur place. Alors on pêche en tout cas des langoustines, des crevettes, des homards exceptionnels. Et moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on ne les trouvait pas dans les restaurants. Mmh. Alors j'allais les chercher dans des viviers à côté du port d'Aberdeen et on pouvait acheter pour trois fois rien des homards qui partaient ensuite en France. Et savez-vous pourquoi les Écossais boudaient les crustacés ?
Non.
Parce qu'en fait, traditionnellement, les peuples celtiques ne mangent pas de produits de la mer.
Mais
pour deux raisons. Ils pensent que l'enfer est au fond des abysses, alors que dans les cultures judéo-chrétiennes, on pense que l'enfer est sous terre.
Ah ouais.
Et deuxièmement aussi, parce que c'est des peuples de pêcheurs, et malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ont porté le deuil d'un proche perdu en mer, et donc on ne mange pas les animaux qui auraient pu manger un être cher.
Ah, ouais,
donc, ouais, tout à fait. C'est pour ça aussi en Bretagne, hein, c'est pas forcément les poissons, le peuple celtique également, enfin, on mange pas forcément beaucoup de poissons. Enfin, autrefois, hein, parce qu'évidemment, les choses changent. Il y a des chefs qui arrivent et qui leur ont fait comprendre que c'était des produits délicieux.
Ouais.
Donc, voilà.
Ah, Mais alors, qu'est-ce qu'on mange en Écosse, du coup ?
Alors, on mange beaucoup de viande et on mange surtout du gibier. On a 10 mois de chasse. La chasse est ouverte pendant 10 mois en Écosse. Elle commence d'ailleurs bientôt pour la grouse, le 12 août.
La quoi ?
La grouse.
C'est donc une espèce d'oie ou quelque chose comme ça ?
C'est une perdrix sauvage.
Ah,
exactement.
Ouais.
Alors, il y a beaucoup de gibier, il y a des canards, des bécasses, des faisans, des lièvres, mais la grouse, on ne la chasse qu'en Écosse, et on la chasse dans les Highlands, dont on a déjà parlé, ces étendues majestueuses et désertiques. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, les Highlands sont artificiels ?
Ah, comment ça ?
Oui. Oui, exactement. Parce qu'en fait, il y a 10 siècles, c'était une région qui était recouverte de forêts.
Ah oui ?
Et ce sont des siècles d'agriculture et d'élevage qui ont permis l'apparition de cette lande de bruyère où vivent les grouse. Et en fait, c'est parce que ces oiseaux sont chassés, et d'ailleurs, c'est une chasse qui est très prisée et très lucrative, qu'on entretient les landes.
Vous voulez dire que si on laissait faire, ce serait couvert de forêts ?
Ça serait resté, oui, exactement.
Et ça se recouvrirait.
Et ça pourrait se recouvrir. Et en fait, l'hiver, les gardes-chasse brûlent des parcelles de vieilles bruyères pour susciter de nouvelles pousses qui vont nourrir les animaux. Donc voilà, ces magnifiques paysages qui sont l'âme de l'Écosse ont été façonnés par les hommes pour se nourrir.
Et le prince Charles, d'ailleurs, il y a ses habitudes. C'est ce que j'avais
cru
dire.
Oui, non, mais c'est des chasses, je ne sais plus à combien de milliers d'euros s'élève la journée de chasse, mais c'est très particulier.
Et ça, je ne savais pas que le paysage de l'Écosse est d'origine humaine.
Exactement.
On
dirait pas, parce que c'est vrai que ça paraît tellement sauvage.
Mais oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait comme agriculture ? Qu'est-ce qu'on élève là-bas ?
Alors, il y a beaucoup de céréales, il y a de l'avoine, du blé et bien sûr de l'orge, puisqu'avec l'orge, on fait le whisky. Et donc, c'est un bon moyen, moi, je trouve, de visiter l'Écosse. C'est celui que j'ai emprunté, la route du whisky. Et alors, on peut aller de dégustation en dégustation. Il y a jusqu'à encore une centaine de distilleries qui sont en activité. Donc, peut-être qu'entre deux, il faut faire une petite sieste. C'est ce que j'ai fait au bord d'un loch.
Parce que vous avez fait toutes les distilleries.
Non, je ne les ai pas toutes faites, mais c'est vrai que quand on emprunte la route, il y en a beaucoup. Donc, on s'arrête. Ouais. Et puis, ils sont très accueillants. Les Écossais adorent les Français. Donc, voilà.
Non mais vous avez raison, il y a un truc spécial entre les Écossais et les Français.
Ouais. Bah parce ils sont très francophiles.
C'est la guerre de 100 ans, c'était nos amis contre les Anglais. Donc,
absolument.
Voilà. Et donc voilà, on peut faire la route des whiskies. Il y a une île qui est à l'ouest, sur la côte ouest, à hauteur de Glasgow, où il y a beaucoup de distilleries. Et vous savez que la qualité d'un whisky, c'est aussi la qualité de l'eau. Et d'ailleurs, sur cette île, chaque distillerie a sa propre source.
Ouais.
Alors ce qui est très important, surtout ne faites pas l'impair, celui que j'ai fait, c'est qu'on ne met jamais de glaçons dans les whisky écossais. On peut le couper avec l'eau de source, mais jamais de glaçons. Sinon, là, on est banni à tout jamais.
Je crois avoir fait l'erreur, malheureusement.
Ah oui, c'est ça.
J'ai entendu dire que whisky s'écrivait de deux façons. Il y avait la façon écossaise.
Et whisky.
Et whisky.
Comme les Irlandais.
Comme les Irlandais.
Ou même les Américains, enfin
oui,
les Nord-Américains.
Ouais. Et quand c'est EY, c'est que c'est pas écossais.
Tout à fait, exactement. Ouais.
Alors, ça fait pas mal de viande. Côté légumes, on peut nettoyer un petit peu
Un chef français qui est installé à Édimbourg qui est installé en Écosse, en tout cas depuis une trentaine d'années à Édimbourg depuis quelques temps, qui a le restaurant l'Escargot Bleu, me disait qu'il y a encore 20 ans, on ne trouvait pas de laitue ni de mâche en Écosse.
Ah bon ?
Vous voyez, la salade, tout ça, il ne connaissait pas. On pouvait trouver quelques légumes racines. Lui, il fait son propre potager. Mais en revanche, on trouve beaucoup de champignons. Alors ça, on le sait peu parce que les Écossais ne vont pas cueillir les champignons. Et moi, j'ai des souvenirs de cueillettes de girolles incroyables. J'ai rempli des coffres de voitures de cèpes. Je ne suis pas marseillaise, hein, c'est vrai, je vous assure.
Parce qu'ils ne les cueillent pas, ils les laissent.
Non, ils ne les cueillent pas. Et d'ailleurs, quand je leur proposais, parce que j'en avais tellement, à mes voisins, je leur disais, ben voilà, ils me disaient, ah non, on préfère les Blue Basket Mushroom. Alors vous savez, c'est ces champignons qu'on achète dans des petites barquettes bleues. Dans les supermarchés.
Ah oui,
barquettes bleues, c'est-à-dire
Les champignons de Paris, vous savez, ils sont vendus dans des petits... Ah. Ils appellent ça les Blue Basket Mushroom. Alors maintenant, ce chef français m'a dit qu'il les ramassait parce qu'il savait qu'on pouvait les vendre à un certain prix, mais il ne les mange pas. Et alors ça, c'est assez énigmatique. Et l'ethnologue Claude Lévi-Strauss écrit dans un texte qu'en fait, dans le monde, il y a les peuples mycophiles et les peuples mycophobes, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas les champignons. Et en gros, tout le nord de l'Europe, plutôt mycophobe. Les pays slaves, nous les Français et les pays du Sud, les Italiens aussi, on est des peuples mycophiles, on adore ça.
Ah ouais, et il y a une raison
Eh bien en fait, il incitait dans cet article les ethnologues à dire, essayer de rechercher pourquoi il y a cette dichotomie entre des peuples et quel est le rapport à la nature que ces personnes entretiennent pour expliquer cette aversion, au contraire cette passion pour les champignons. Ouais.
Alors moi, il y a une question que j'ai à vous poser, c'est que le haddock, c'est un poisson qui n'est pas mauvais.
Oui.
Et alors, bizarrement, ils le mangent plutôt en fish and chips. Et je trouve que ça tue tout, le fish and chips. Ça n'a pas de goût.
Non, je ne suis pas d'accord.
Ah bon ?
Il y a fish and chips and fish and chips. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on fait frire du poisson, c'est des petits morceaux de poisson, alors que le fish and chips, c'est des gros morceaux. Ouais. Et donc, ça reste très moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Et surtout, ça doit être accompagné de frites qu'on arrose de vinaigre, hein, sinon
ouais,
c'est
vinaigre,
pas bon.
Exactement.
Mais alors, surtout, ce qui est incroyable, c'est que dans le monde entier, on dit French fries et que les Anglais, enfin, les Écossais disent des chips. Mais enfin, bon, vous me direz, ils conduisent à gauche et dans le monde entier, on conduit à droite. Donc voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça. Donc non, le fish and chips, c'est très très bon et c'est pas gâcher le poisson que de le cuisiner ça quand c'est bien fait. Ouais, je pense.
Je suis peut-être mal tombé alors.
Il y a même des étoilés hein, chez les fish and chips. Il y a des classements de fish and chips selon leur qualité.
Ah, bon,
En Angleterre.
En Angleterre et en Écosse.
Et en Écosse, ouais, il faut boire ça avec une bière, c'est délicieux.
Voilà. Ah bon, écoutez, je vais essayer de m'y remettre.
Oui, voilà, il faut recommencer.
A priori. Merci beaucoup, Emmanuel Jarry. À suivre sur Europe 1, tous les bons plans de Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet pour découvrir l'Écosse. Nous sommes en Écosse sur Europe 1 jusqu'à 18h. Ah, l'Écosse. Et puis alors, je vais vous dire un truc. Il n'y a pas de saison pour aller en Écosse. Moi, j'adore l'Écosse l'hiver. J'adore l'Écosse l'été.
Il y a quatre saisons dans une journée, en fait.
Et de toute façon, il y a quatre saisons dans une journée.
C'est plutôt ça.
Nous sommes avec Jean-Bernard Carrier qui va nous donner les bons tuyaux pour aller dans cette terre fabuleuse. Et d'ailleurs, j'hésite parce que j'essayais de retrouver dans ma tête une réflexion que font les Écossais. Ils disent que de toute façon, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements.
Oui, ils disent ça en Norvège aussi, d'ailleurs.
Absolument. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez en Écosse, Jean-Bernard ?
Bah, j'ai un coup de cœur, voilà, je voudrais vraiment vous le faire partager. C'est une île, c'est l'île de Skye.
Alors là,
je touche une corde sensible, je le sens.
Là, je suis d'accord avec vous.
Pour moi, c'est la quintessence de l'ambiance écossaise. Elle est d'ailleurs surnommée l'île des brumes. C'est une île qui est assez grande quand même, hein. Ça fait 80 km de long. Et c'est un condensé de tous les paysages d'Écosse. Il y a des lochs, des landes sauvages, des petits ports colorés, les montagnes déchiquetées, vous avez évoqué tout à l'heure. Et puis bien sûr, sans quoi ça ne serait pas l'Écosse, des troupeaux de moutons qui vous barrent la route quand vous conduisez sur cette île. Alors, c'est pas vraiment une île parce qu'il y a un pont.
Ouais. Mais
pas très longtemps. Mais l'ambiance insulaire est complètement présente. C'est une île autour de l'Écosse. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes sur l'île de Skye ?
Il y a pas mal d'expériences à faire. Alors, je sais que vous aimez bien la bière artisanale, vous l'avez dit un jour.
Comment vous savez ça ?
Je le dis dans vos pensées quand même. Hein. Alors, direction le petit port de Høg, je crois que ça se prononce comme ça, U-I-G, Høg. Et là, il y a une brasserie qui s'appelle Skye Brewing Company, qui était réouverte depuis le 15 juillet, donc elle est en fonctionnement aujourd'hui, qui fabrique de très bonnes bières artisanales, alors la blonde, l'ambrée, mais surtout une variété un peu particulière, typiquement écossaise, la Tarasgeir, une bière tourbé, mes amis.
Jean-Bernard, faites attention parce que l'île de Skye, franchement, le truc qu'on voit qui est magnifique, c'est les paysages. C'est le premier truc que je ferais, c'est pas boire une bière.
Après avoir bu sa bière, on peut faire une belle expérience du côté de The Old Man of Stour. Ouais. Ça, c'est vraiment le paysage typiquement écossais. C'est une randonnée, alors une petite randonnée, Philippe, ça fait 6 km, 2 heures pour la version courte, mais vous allez tellement vous arrêter, vous allez passer la demi-journée pour faire des photos, tellement le paysage est impressionnant.
Et pour évacuer la bière aussi,
et pour évacuer la bière,
au voilà. passage.
Alors, c'est un petit sentier qui traverse une lande et on se rapproche de ce Old Man of Stour qui est en fait une énorme aiguille de basalte qui fait à peu près 60 mètres de haut. Ouais. On n'y monte pas, bien sûr, mais avec la randonnée, on fait une boucle autour de cette aiguille de basalte et qui est chargée d'une ambiance. Vous voyez, il y a un côté, on a l'impression que c'est une immense statue qui est dressée face à soi. Et c'est, on y va pour l'ambiance, pas pour la randonnée, mais pour ce paysage sublime. Et il y a l'océan qui se trouve derrière. Ça, c'est vraiment impressionnant.
Il y a quelque chose sur cette île, moi, je trouve, de mystique.
Mais complètement mystique.
Vraiment.
C'est des énergies, en fait.
Il y a une énergie. Et vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai un petit peu bourlingué autour de la planète. Et bien, c'est un des endroits au monde où je crois que je suis resté assis, sans bouger, à regarder le paysage le plus longtemps. J'ai dû rester 4 ou 5 heures sur l'île de Skye à regarder tellement le paysage, tellement le spectacle, tellement l'énergie particulière de ces roches vous envahit.
Exactement.
Et vous ne vous ennuyez pas une seconde. C'est vraiment incroyable.
Et ce pic de basalte, il dégage quelque chose. Donc on y va pour la randonnée, mais aussi pour cette énergie.
La contemplation.
Et l'énergie qui vous envahit à travers la pierre.
Vous ne me dites pas que vous avez trouvé un endroit pour la baignade?
Ben si, sur l'île de Skye, on peut se baigner. Là encore, vous le disiez dans mes pensées, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle les piscines de fées, les fairy pools, un décor incroyable. Ce sont des piscines naturelles qui sont alimentées par des petites cascades avec d'impressionnantes montagnes en arrière-plan, et tout ça près de l'océan. La palette des couleurs, turquoise, le gris des nuages, le noir de la roche et le vert de la pelouse. Ça, pour faire la photo typique de l'île de Skye, c'est irremplaçable. Ouais. Alors, j'y ai fait trempette,
oui,
j'ai osé.
Un orteil.
Bon, allez, je suis allé jusqu'à la cheville, c'est vrai que l'eau est quand même bien glacée. Mais franchement, c'est un site qui est ultra photogénique. Si vous y allez après une éclaircie ou lors d'une journée ensoleillée, l'eau des montagnes est tellement pure et transparente qu'on dirait du cristal. C'est un petit côté polynésien, Philippe.
C'est vrai, absolument. C'est couleur turquoise polynésie.
Et l'imagination fait le reste,
voilà,
pour les températures de l'eau.
Mais il faut y aller au bon moment, éclaircie, journée ensoleillée, ça peut arriver quand même à l'île de Skye.
Est-ce qu'une fée est venue vous rendre visite?
Je ne vous le dirai pas, Nathalie.
Je voulais tout savoir.
Ça, c'est mon petit jardin secret, quand même.
On est intime maintenant, JB, enfin.
Et alors, sur le continent, vous avez repéré des choses?
J'ai repéré le Glencoe. Ça, pour moi, c'est le en plein cœur des Highlands. C'est le mythe absolu. Je l'ai traversé en voiture.
Glen,
au
ça veut dire vallée.
Glen, c'est la vallée. Mmh. Et le Glencoe, c'est une vallée particulière. Alors, elle est à la fois majestueuse et lugubre à la fois. Il n'y a pas un seul arbre, juste une végétation complètement rase. Ces montagnes pelées, rocailleuses, quelques cascades. On a l'impression que cette vallée est hantée par des fantômes.
Ah ben on y revient toujours, vous voyez.
On y revient toujours. Cette vallée-là incarne pour moi le mythe du fantôme écossais complètement. Alors, ce n'est pas simplement dû à la rudesse et l'austérité des paysages, mon cher Philippe. Les pierres de ce glen résonnent d'une histoire encore sanglante parce qu'au XVIIe siècle, il y a eu un massacre impitoyable dans ce Glencoe entre deux clans écossais, les Campbell et les MacDonald. Ils se sont étripés pour des histoires de vol de bétail et il reste encore cette ambiance-là. Et vous pouvez faire une randonnée qui s'appelle la Lost Valley, la vallée perdue, qui suit les chemins empruntés autrefois par les membres de ces clans lorsqu'ils tentaient d'échapper à leurs assaillants. Ah, c'est chargé comme ambiance, le Glencoe. Ouais, c'est vraiment chargé.
38 morts, hein.
Voilà. 38
morts
dans cette histoire.
Une famille entière, hein, un clan entier. Je ne sais plus lequel des deux a été, je crois,
c'était
massacré.
C'était l'équivalent d'une vendetta.
Oui, exactement.
Corse, version Highlands. Voilà. Et cette ambiance, elle est perceptible lorsque vous marchez dans ce Glencoe.
Et c'est vrai, et je n'arrête pas de le dire, quand on est en Écosse, l'histoire du lieu vous pénètre.
Vous possède.
Non, mais vraiment, vous le ressentez.
On est dans le paranormal.
Mais vraiment,
je vous le dis tout de suite. Là.
On ressent des vibrations.
J'ai ma boule de cristal. On va passer une séance de spiritisme.
J'ai mes tarots avec moi. Tout va bien.
Côté des villes écossaises, vous êtes plutôt Glasgow ou Édimbourg, Jean-Bernard?
Vous titillez ma fibre aussi urbaine, mon cher Philippe, parce que Glasgow versus Édimbourg, c'est un petit peu comme Lille-et-Lens, Mulhouse et Strasbourg. Ouais. Glasgow, c'est l'ancienne ville industrielle qui a complètement entamé sa métamorphose. Aujourd'hui, c'est une ville qui est devenue branchée. Adieu la pauvreté, la suie, la tristesse. On n'est plus dans une ambiance de Dickens. L'ancienne cité ouvrière est devenue une ville dynamique, créative. Ouais. Tout ce qui bouge aujourd'hui en Écosse, ça se passe à Glasgow. Si vous aimez l'art dramatique, les galeries branchées, les concerts de musique live,
vous irez à Glasgow. En revanche, Édimbourg, eh ben, y a bien sûr ce petit côté patrimoine historique, l'opulence de l'architecture, les quartiers géorgiens et ce fameux château dont vous avez parlé, Nathalie.
Et le festival,
Et le festival, bien sûr, qui a lieu à la fin août, début septembre. Voilà. Mmh. Et puis, bien sûr, ces pubs magnifiques. J'ajoute quand même quelque chose qui est super important. Si on aime les villes en Écosse, il faut vraiment assister à un match de rugby. Les fameux Glasgow Warriors, avec ce stade, c'est une expérience incroyable. Ne loupez pas un match de rugby à 15 en Écosse, mes amis.
Merci beaucoup Jean-Bernard, merci vous qui nous avez suivis d'être venus avec nous en voyage. Et on repart demain, hein. Ne rangez pas trop la valise, laissez-la prête à côté de vous. Demain nous partirons sur une île nommée la Perle des Caraïbes, c'est un pays fascinant, 4000 km de côte, on y roule encore dans de vieilles américaines des années 50 très souvent. Un pays différent dont la capitale, La Havane, vous prend vraiment aux tripes, c'est un peu comme l'Écosse mais façon latine. Je vous emmènerai bien sûr à Cuba demain et en première heure, nous irons sur une terre de volcans, parmi les 80 volcans de la chaîne des Puys, avec des dômes étonnants, verdoyants. C'est le pays des eaux vivifiantes. Sur la route des Saint-Jacques de Compostelle, nous serons, vous l'avez deviné, en Auvergne. Merci les amis, à demain sur Europe 1 et dans un tout petit instant, le grand journal du soir avec Thierry Dagiral. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe, vous allez bien ?
Très bien, vous savez, moi, chaque fois que je voyage, je suis heureux, je plane.
Ça s'entend en tout cas. On se retrouve demain dès 16h, Philippe. Bonne soirée à vous. Dans un instant, place à l'info sur Europe 1.
Europe 1.